Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre rendez-vous culturel fabriqué par des passionnés pour des auditeurs curieux. Cette semaine, il sera question d'un IF, non pas l'arbre, mais un festival dédié à l'illustration. Gaël chroniquera l'exposition Wang Xiaoliang, parce que c'est la lune qui éclaire nos nuits. Guillaume nous présentera un album, Marilou Mauvaise Fille, et Thomas nous fera la lecture d'un texte con comme la lune, encore elle. Restez avec nous pour en savoir plus. Et bien entendu, nos Gédéons coup de cœur du moment. Cette semaine, c'est un IF qui a retenu mon attention. Pas un bel arbre qui peuple nos rues, mais un tout nouveau festival qui fait la part belle à l'illustration. IF. IF pour Illustration Festival. Ce sera les 7 et 8 octobre subsistance. Et pour nous en parler, Jean Tourette, directeur de la revue Qui Blinde et initiateur de ce nouveau festival. Bonjour Jean Tourette.
Bonjour Gaëlle.
Et merci d'être avec nous. C'est un véritable plaisir de se retrouver. Vous êtes le directeur de la revue Qui Blinde, comme je viens de le dire, qui est une revue, comme on le disait hors micro, une revue très esthétique qui nous parle pas seulement de graphisme, mais qui est quand même sur cette option-là, avec beaucoup de références à la culture. Jean Tourette, une revue qui dure, hein, qui a bientôt 20 ans, c'est quand même incroyable. Parlez-nous un petit peu de Qui Blinde, c'est important.
Qui Blinde, c'est un projet collectif depuis l'origine. C'est pour ça que je ne suis pas le directeur,
oui,
mais qu'on est trois co-directeurs associés. Et à l'origine, on était bien plus nombreux. On était une dizaine de copains. On s'est connus quand on était étudiants avec cette envie de faire de l'édition. Pas tout de suite de l'illustration, mais de l'édition, parce qu'on aimait écrire, parce qu'on aimait concevoir. Le projet d'un magazine nous plaisait beaucoup. Et l'illustration s'est imposée à nous parce qu'on aimait beaucoup le graphisme, on s'intéressait beaucoup à la culture visuelle. Et si on se replonge, donc 20 ans en arrière, parce que donc le magazine va avoir 20 ans l'année prochaine. Donc au début des années 2000, l'illustration était une sorte de sous-genre artistique coincé entre le street art contemporain, la BD. Alors quand je dis sous-genre, attention, bien évidemment, l'illustration est un art qui existe depuis très longtemps. Mais là, en termes d'identification, voilà.
Il n'y avait pas tellement de place, finalement,
non,
pour
pas,
ça.
Non, pas autant que pour d'autres types d'art. Et nous, bon, c'est quelque chose qu'on aimait beaucoup et on a eu envie de la montrer, de la partager en faisant un magazine qui soit gratuit et distribué assez largement pour pouvoir montrer les premiers qui font l'illustration, à savoir les illustratrices et les illustrateurs internationaux.
Qui Blinde, ça continue, ça paraît tous les combien, où est-ce qu'on trouve Qui Blinde ?
On trouve Qui Blinde dans des lieux culturels, beaucoup,
oui, essentiellement.
Dans des magasins. L'idée, c'était un petit peu d'imaginer un réseau de distribution à notre image. Quand on a pensé le magazine, on s'est dit finalement, on fait le magazine.
On aimerait le trouver.
Voilà, on fait le magazine qu'on aimerait qu'on nous donne.
Ouais.
Où est-ce qu'on aimerait le trouver ?
Et où est-ce qu'on va ?
Bon, évidemment, on va beaucoup dans les bars. À l'époque, on allait beaucoup dans les bars. C'est là où on a écrit une partie de l'histoire de Qui Blinde, d'ailleurs, au café de Lu, ex-café de Lu qui n'existe plus à côté de la fac, et les bars, les magasins, les lieux culturels, et c'est comme ça donc qu'on a établi un petit peu ce réseau de diffusion jusqu'à trouver un magazine qui sort tous les trois mois.
Alors, c'est un trimestriel donc.
C'était parce qu'en fait, ouais, le dernier numéro est sorti cet été et la périodicité va changer un petit peu à cause justement de ce nouveau projet
du festival.
Le projet de festival qui va finalement prendre la place du numéro d'automne.
D'accord. Est-ce que c'est pas dur aujourd'hui de mener un projet d'édition au prix de l'énergie, au prix de l'impression, de l'imprimerie, etc. Est-ce que les coûts, notamment d'impression, sont des éléments qui permettent de dire, bon, on réfléchit et puis peut-être on en fait paraître moins, peut-être plus qualitatif. Est-ce que ce sont des questions que vous vous êtes posées, Jean ?
Alors, c'est des questions qu'on s'est posées dès l'origine,
Bien sûr.
On était en association, donc bénévole, et où
et oui,
le seul objectif financier, c'était trouver de quoi imprimer le magazine. Donc,
évidemment.
On était très au fait.
Aujourd'hui, vous avez des annonceurs.
Voilà, on a des annonceurs. On a eu des annonceurs dès le début, en fait, des gens qui nous ont fait confiance.
Bien
ça
sûr.
Nous a beaucoup touché, quoi. Beaucoup de lieux culturels, notamment.
Et
après, c'est pareil pour tout. tous les titres, tous les supports. Vous sortez un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4, vous vous rendez visible, on vous fait confiance, mm-hmm. on se rend compte que ça existe, que ça dure et que donc ça vaut peut-être le coup de prendre de la publicité à l'intérieur.
Et c'est encore le cas, on vous fait confiance, c'est aux subsistances que ça se passe, c'est pas un hasard.
Exactement.
C'est une longue tradition de partenariat avec les subsistances.
C'est une longue tradition de partenariat déjà avec l'équipe précédente, Cathy Bouvard notamment, qui nous suivait beaucoup, qui adorait le magazine. Là, l'aventure se poursuit avec Stéphane Malfait. Se poursuit aussi d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, avec Estelle Pagès, la directrice de l'école des Beaux-Arts, qui nous suit beaucoup et qui est très sensible à l'illustration parce qu'elle était avant à l'école des Arts Déco de Strasbourg, qui est la référence en matière d'illustration.
C'est vrai.
Donc, notre histoire s'est construite autour justement de ces partenariats, de ces annonces. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a la question des coûts. C'est pour cette raison que, petit roulement de tambour, le magazine va devenir semestriel.
D'accord.
À partir de maintenant.
Oui.
Mais pas seulement pour des questions de coûts d'impression. Évidemment, il faut savoir que le coût d'impression a été multiplié presque par deux. Enfin,
ouais, c'est à peu près
c'est,
ça.
C'est assez énorme, c'est très important.
Ça impacte la presse papier de manière terrible, d'ailleurs.
Et ça nous oblige à nous questionner,
absolument,
à re-questionner la notion et la définition de média. C'est pourquoi il y a le coût, mais il y a aussi ce festival. Les ambitions sont tellement élevées qu'on ne pouvait pas se dire on fait un festival à l'automne plus notre numéro d'automne. Donc d'emblée, on s'est dit bon, celui-ci va sauter. Et histoire d'être un petit peu cohérent, de se projeter à plus long terme, on s'est dit, est-ce que finalement on n'en profiterait pas pour réécrire, pour redessiner une année médiatique qui blinde? Qu'est-ce
Bien
que
sûr.
Va être le média qui blinde? Et on s'est dit, le média qui blinde pourrait ne pas être que du papier, pourrait être évidemment un semestriel, donc garder le format papier parce qu'on y est très
Bien
très
sûr.
Très attaché. Pour l'illustration, c'est quand même, on aime avoir ça. Tout à l'heure, on se disait qu'on aime conserver les
magazines.
On aime les conserver.
Donc, Guillaume en a encore chez lui et moi aussi.
Un média sous format papier, un média sous format digital.
On
a un site internet, mais on a aussi beaucoup de présence sur les réseaux. On a
Absolument.
Une grosse communauté sur les réseaux. Et un média de chair, un média d'événements qui passerait par le festival et qui passerait par des micros événements un petit peu moins ambitieux tout au long de l'année afin d'être à la rencontre de nos publics. Parce que quand on fait un événement, on se rend compte que c'est le moment suprême où on peut rencontrer la personne pour laquelle on écrit, pour laquelle on fait tout ça.
Et je pense que Jean, vous avez prononcé le mot qui convient, rencontre. Je pense qu'il y a eu un avant Covid et un après Covid. Les gens ont envie de se rencontrer, ont envie d'événements. On voit bien comment ça marche. Quand on fait un événement à Fagor, on voit qu'en ce moment, c'est la Biennale de la Danse. Il y a un monde fou aux usines Fagor, les street food festivals qui drainent plein de gens, etc. Les gens ont besoin de se rencontrer. Ça rend les choses concrètes et ça rend la relation tellement plus intense et tellement plus forte. IF, c'est le 7 et le 8 octobre. Plusieurs dizaines d'illustrateurs seront là en personne. Comment vous avez imaginé votre événement?
En fait, on a imaginé notre événement comme la version en grandeur nature du magazine.
C'est génial.
C'est pourquoi
on va adorer ça.
On est dans le prolongement. On est dans le prolongement de notre histoire. Alors on trouvait que pour un anniversaire, un 20e anniversaire, c'était pas mal de passer en grandeur nature. Et on a un petit peu conçu ce festival comme les comme des rubriques, comme les pages, comme les pages d'un magazine, en essayant, comme on le fait dans Kiblind, de montrer différentes facettes, voire toutes les facettes de l'illustration. Alors toutes les facettes, c'est impossible parce qu'elle peut tout, l'illustration, on peut tout faire avec l'illustration, absolument tout. Et là, ce qu'on a voulu montrer, déjà, c'est évidemment ceux qui la font, en invitant donc 80 artistes internationaux en chair et en os sur le festival, à savoir 50 illustratrices et illustrateurs qui vont créer en live, donc le public pourra voir de la création en live, de l'illustration en live.
Fabuleux.
Une trentaine d'artistes qui sont des créatrices et des créateurs d'objets illustrés, qui exposeront leurs objets, alors pour montrer que l'illustration peut assez facilement se déployer, se transporter.
Et se décliner sous la forme d'objets en 3D.
Absolument, que ce soit des t-shirts, des serviettes de plage, de la céramique, des ballons de basket, des chaussettes. On veut aussi montrer l'illustration avec laquelle on joue. C'est pourquoi sur l'esplanade des subsistances, en rentrant, on aura
un playground
avec des panneaux de basket illustrés,
J'adore.
Des baby-foot illustrés, des tables de ping-pong illustrées. On veut aussi montrer que l'illustration bouge. C'est pourquoi on avait envie de faire des programmations de courts-métrages, d'animation.
Oui.
En se disant que l'illustration, que l'animation, c'est peut-être de l'illustration en mouvement.
Et puis sortir un petit peu des sentiers battus et des codes, finalement.
Exactement. Autour de ça, bien sûr, des expositions, des conférences également, et des masterclass.
Oui, mais vous dites des conférences pas chiantes. Moi, j'ai vu votre dossier de presse.
Des conférences pas chiantes, tout à fait, qu'on appelle justement des talks.
Des talks.
Et avec justement des talks autour de l'illustration et son caractère sociétal. Mmh. Illustration, comment on illustre la ville, comment on illustre les corps, la représentation des corps du nu, comment on illustre le vivant, comment on parle, encore une fois, d'animation et d'illustration, comment on parle d'effets divers, comment on parle de la musique aussi et de la relation entre, dans le cadre d'un clip par exemple, comment deux bois artistiques se croisent, celle de l'illustration et celle de la musique. Donc ça, voilà, ça va être des conférences pas chiantes parce qu'elles vont durer moins d'une heure. Donc et comme ça nous permettra d'en faire un petit peu plus.
D'en faire plein, voilà. Absolument.
Et autour de ça, oui, bien sûr, des ateliers. Ateliers, conférences et masterclass, tout ça justement se passera à l'école des Beaux-Arts.
Il faut s'inscrire à l'avance.
Ouais, c'est préférable.
Ouais, surtout pour les ateliers, j'imagine.
C'est préférable. Ouais. Et puis, à la fin de l'après-midi, aura lieu la baston d'illustratrices et d'illustrateurs.
Les battles.
Les battles, c'est quelque chose, c'est un format qu'on aime beaucoup. Après quoi, on terminera la soirée par la soirée musicale, par plusieurs concerts, trois concerts qui vont s'enchaîner jusqu'à
avec
minuit.
Avec des sortes de concerts dessinés, avec des illustrateurs qui vont proposer des choses sur de la musique.
On va avoir une super scéno. On va avoir 24 mètres carrés de panneaux de LED répartis sur trois grands écrans qui vont être disposés tout autour d'une scène circulaire.
Wow.
En fait, on va commencer par la baston. La baston, il nous faut un ring, sinon ça marche pas.
Ah bah non, c'est vrai, il faut un vrai ring.
Il faut un ring. Donc, on garde le ring après la baston pour le concert et ça devient une scène circulaire et le public pourra se déplacer tout autour avec de l'animation projetée sur ces trois énormes panneaux lumineux.
Bah on a hâte de voir ça. Tout va se situer aux subsistances, vous utilisez tout l'espace et bien sûr, la collaboration avec l'école des Beaux-Arts est évidemment primordiale aussi. J'imagine que là, vous êtes au cœur de la machine, si je peux m'exprimer ainsi, en confrontation avec des étudiants. Enfin bref, ça, on ne peut pas rêver meilleur endroit.
On ne peut pas rêver meilleur endroit parce qu'en effet, on a ce lieu est sublime. Et par rapport à tout ce qu'on pouvait imaginer, toutes ces formes. C'est un des rares lieux, peut-être le seul à Lyon, peut offrir autant d'espace avec justement l'école des Beaux-Arts en plus pour les conférences. Donc, c'est l'endroit parfait pour IF.
Alors, combien vous attendez de public à peu près? Vous avez misé sur une jauge, sur des entrées, sur cette première édition? Est-ce que vous avez comme ça un petit peu en tête?
Alors, ce qui va sans doute surprendre, c'est que on a des envies, mais on n'a pas un objectif à atteindre.
Je comprends.
Parce que le festival est entièrement gratuit.
Oui, et puis il est financé par vos partenaires. Enfin,
exactement.
Voilà, vous êtes aidés, etc. On n'est pas du tout sur une billetterie. Mais quand même, est-ce qu'on a des espérances? Est-ce qu'on se dit, il y aura, je sais pas, 5, 6, 10 000 personnes sur les deux jours? Ou est-ce qu'on est plutôt sur 500 personnes?
On espérerait bien
surtout le chiffre haut.
Entre 5 et 10, oui, voilà.
Évidemment.
Pour commencer, voilà. C'est compliqué d'inventer, d'imaginer une première édition.
Bien sûr.
Alors, ce qu'on sait faire, c'est travailler,
l'écrire,
la présenter. Et toute l'équipe est vraiment à fond, quoi. Parce que tout ça serait impossible sans l'équipe qu'on a. On a une équipe incroyable, incroyable à qui blinde, de gens qui sont super et qui font un taf fou, quoi. Donc ça, on sait faire. On sait où on va. On sait qu'a priori, on va présenter quelque chose de bien. Après, est-ce que le public sera au rendez-vous? Normalement, il devrait y avoir des affiches dans la rue, ça devrait se voir. On espère que des gens seront là. Mais encore une fois, comme on a pensé...
La communication est très belle.
Merci beaucoup. comme on a conçu ce festival comme le magazine en grandeur nature, le magazine lui-même est gratuit. On fonctionne avec des partenaires. Là, c'est pareil, le festival est gratuit. Et des partenaires sont à l'honneur pendant ces deux jours.
Bon, c'est super. On viendra vous voir les 7 et 8 octobre. Rendez-vous aux subsistances pour IF, Illustration Festival. J'imagine que vous avez un petit site dédié où on peut trouver toute la programmation.
illustration-festival.com.
Merci beaucoup Jean Tourette, c'était un plaisir.
Merci Gaëlle.
Nous poursuivons avec toi, Gaëlle, et une exposition qui se déroule au Nouvel Institut Chinois, un lieu que tu affectionnes, je crois.
Exactement, c'est l'exposition de Yang Xiaoliang, parce que c'est la lune qui éclaire nos nuits, au Nouvel Institut Franco-Chinois. L'exposition offre deux voyages radieux. L'un plastique, issu de photos et d'aquarelles. L'autre culturel, autour de la Lune, astre fondamental dans la culture traditionnelle chinoise. Les photos de Yang Xiaoliang plongent le spectateur dans des vues urbaines nocturnes éclairées simplement par la luminosité de la Lune. Nous déambulons ainsi dans un entre-deux, car l'artiste prône le flou, soit une esthétique du brouillage. Les scènes du quotidien, rues, immeubles ou sorties d'usine, saisies dans des atmosphères embrumées, deviennent ainsi des formes nébuleuses, évanescentes et inachevées. Ce traitement de la forme, sans perception des contours, n'est pas sans rappeler le style pictural classique chinois mogu, c'est-à-dire sans os, où la représentation naît de masse plus que de lignes. La puissance des photos de Yang Xiaoliang vient justement de l'imprécision, de l'approximation. L'œil tâtonne, ou plutôt vogue, navigue, entre de gracieux modelés vaporeux, dignes du sfumato de Léonard de Vinci, et les photoplasticiennes du pictorialisme, mouvement qui prenait un autre rapport au réel. Chez Yang Xiaoliang, l'évocation, l'évaporation et la dissolution des formes nous offrent la générosité d'échafauder de prolifiques narrations. Les représentations s'envisagent par des hypothèses, des mirages, des rêves, incertitudes et indécisions font foisonner notre imagination. Les personnages deviennent des silhouettes, se rapprochant ainsi de figures universelles. Un grand sentiment de sérénité et de calme se dégage de ces univers silencieux. Les Occidentaux songeront à Edward Hopper et les Orientaux à la poésie des lavis et jeux d'encre de Mi Yu Ren, un peintre chinois du XIIe siècle qui inspire Yuang Xiaoliang. On retrouve ces jeux d'encre dans les aquarelles de l'exposition, épurées, là encore l'artiste travaille par omission, et de petit format, elles ponctuent l'espace du nouvel institut franco-chinois comme autant de photogrammes d'un film. Revenons aux photos. La lumière lunaire vient ciseler certaines zones. Chaque fenêtre d'immeuble ou de maison devient une fenêtre lunaire, pour reprendre l'expression de Christine Cayol, fondatrice de Yishu 8, la maison des arts de Pékin. La lumière perce, comme si elle émanait de sources rétro-éclairées, et transparaît, ça et là, comme les touches impressionnistes de Claude Monet dans sa série des cathédrales de Rouen. La luminosité de la lune dans l'obscurité, le retournement de la nuit en lumière, rejoint le principe chinois du Fu Dao, c'est-à-dire la voie du bonheur, la faveur céleste, l'arrivée de la bonne chance. Autre voie du bonheur, la sollicitation de l'aptique, du sens du toucher. Les photos de Yang Xiaoliang sont d'un rendu incroyablement velouté, cotonneux, poudré, vaporeux. Tout relief s'estompe dans des effets brumeux mat. L'artiste recherche invariablement ce flou atmosphérique mat. Pour exacerber la matité de ses images, il n'a d'ailleurs pas souhaité mettre de vitre sur ses photos. Enfin, pour coller à l'actualité et relever l'importance de la lune dans la culture chinoise, sachez que la fête de la lune, grande fête traditionnelle également nommée fête de la réunion car elle symbolise la réunion familiale, sera célébrée le 23 septembre prochain. Je rappelle les références de l'exposition pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, Yang Xiaoliang, parce que c'est la lune qui éclaire nos nuits, au nouvel institut franco-chinois. Elle est programmée jusqu'au 24 novembre 2023. Plus d'informations sur nifc.fr.
Merci beaucoup Gaëlle. Guillaume, nous poursuivons cette émission cette semaine. Tu es venu nous parler d'un disque qui va voir le jour grâce à une campagne de financement participatif signée Marie-Lou et qui s'intitule « Mauvaise fille ». On t'écoute.
Alors oui, effectivement, je voulais évoquer cet album qui sort donc le 27 octobre, donc c'est un petit peu plus loin dans le temps, mais il y a déjà des choses que l'on peut voir sur internet et prochainement il va y avoir un nouveau clip là qui va être visible. Alors comment j'ai découvert Marie-Lou ? Elle va collaborer avec une autre artiste, Émilie Marche. Émilie Marche, j'en ai un petit peu parlé dans une autre émission, elle a aussi collaboré avec Gilles Kaplan qui vient de sortir son nouvel album qui est absolument extraordinaire. Donc Marie-Lou, c'est un album qui s'intitule Mauvaise fille au pluriel. pluriel, mauvaise au pluriel, fille au pluriel. C'est un album, alors moi je n'aime pas le mot féministe parce que ça veut pas dire grand chose, le mot féministe aujourd'hui, enfin, ou plutôt ça veut dire trop de choses. Mais en tout cas, cet album, Mauvaise fille, c'est un trajet de portraits féminins et Marie-Lou, eh bien, chante des chansons à propos des personnes qui l'ont touchée. Ça peut être des personnes de sa famille, comme sa grand-mère qui l'a inspirée, ça peut être sa grand-tante, voilà. Et donc, en fait, c'est pas du tout passéiste, hein, c'est des chansons plutôt rentre-dedans et des chansons qui vont évoquer des femmes fortes, des femmes indépendantes, des femmes intrépides, des femmes qui ne rentrent pas dans les cases dans lesquelles on veut les faire trop souvent rentrer. Donc moi, je trouve cet album vraiment passionnant. On va écouter un premier titre, et ce premier titre, c'est le premier titre de l'album, et en fait, il est un petit peu programmatique parce que il s'intitule Marie-Lou, et en fait, en 1 minute 50, eh bien, elle se présente.
On m'appelait Marie-Lou, j'étais la chèvre et le chou, la fille qui s'est pas trouvée, la case qu'on n'a pas cochée. On me disait tu vas où, on me voulait dans les clous, entouré d'autres visages sur les photos de voyage. Marie-Lou, c'est un nom pour le grandiose, ça donne envie d'autre chose. On avalait mes mots doux, je les envoyais partout, en rose et noir je dansais, je ne voulais pas m'ennuyer. On m'appelait Marie-Lou, je n'étais pas sage du tout, et du haut de mon balcon, je perds encore la raison. Marie-Lou, c'est un nom pour le prestige, ça donne un peu le vert.
On vient d'écouter le premier titre de l'album Mauvaise fille de Marie-Lou. Marie-Lou se présente et nous explique un petit peu qui elle est. D'ailleurs, on peut revenir sur quelques mots. Marie-Lou, c'est un nom pour le grandiose, ça donne envie d'autre chose. Marie-Lou, c'est un nom pour le prestige, ça donne un peu le vertige. Moi, j'aime beaucoup ces deux vers que j'ai un petit peu scindés en deux, puisqu'il y a toute la chanson autour. Donc cet album, voilà, ça parle de mère maquerelle, ça parle de femmes révoltées, de femmes intrépides, de femmes éprises de liberté. Et je pense que c'est important aujourd'hui, parce que finalement, il y a peu d'albums totalement féminins et qui parle des femmes d'une manière justement non pas rentre-dedans. C'est pas un album militant, mais pourtant c'est un album épris de liberté. Et moi je fais le rapprochement avec une artiste qu'on a déjà évoquée, vous vous souvenez de Séverine Daucourt qui avait fait un livre-disque, elle est psychologue, psychiatre, et elle avait fait ce livre-disque, et justement c'était à la fois féministe mais en même temps c'était bien au-delà de ça, et donc moi ça me fait penser un petit peu ça. Donc vraiment cet album est assez fascinant, et donc vient de sortir un nouveau titre qui ferme l'album, qui s'appelle donc Mauvaise fille, qu'on va écouter tout de suite.
C'est trop loin, c'est trop fort, c'est catin, c'est trésor, c'est vilaine, c'est vulgaire, c'est vestale au vestiaire, c'est joueuse, c'est vivante, c'est dangereuse et bruyante, c'est salope, c'est trop belle, c'est trop court, mais c'est telle.
Mauvaise fille,
comme moi. C'est colère. Oh la loi est
font l'histoire. Comme les fous du village. Comme le goût du carnage. Comme moi. Ta frangine, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, ta garce, ton héroïne, ta superbe, ta sublime, mauvaise fille, comme moi, mauvaise fille, comme là, mauvaise fille, en toi, mauvaise fille, écoute-la, mauvaise fille, comme moi.
Donc on vient d'écouter Mauvaise fille au pluriel. Alors je ne sais pas si vous avez bien retenu certaines paroles. Mauvaise fille comme moi, mauvaise fille comme la mauvaise fille en toi. C'est trop loin, c'est trop fort, c'est catin, c'est trésor, c'est vulgaire, vilaine, c'est vulgaire, c'est vestale au vestiaire. Moi j'aime beaucoup cette espèce de litanie avec ces anaphores là qui reviennent. Donc voilà, c'est vraiment un très beau disque. Comme tu l'as dit en introduction, un disque qui a été financé avec une campagne participative. Alors, je ne sais pas si c'est la nouvelle façon de sortir des disques, mais en tout cas, ça aide et ça donne de la liberté. Et ça a été un chouette succès parce que c'est allé bien au-delà des espérances de Marie-Lou. On peut peut-être donner son nom à la ville, hein, Marilyn Maillot, mis en musique par Emily March. C'est vraiment un très chouette disque que je vous conseille. En plus, vraiment, la pochette, il y a une photo qui est assez sensuelle. Elle est en même temps provocante, moi que je trouve assez extraordinaire. On peut aussi dire que c'est sur un label marseillais qui est vraiment très voilà, qui sort beaucoup d'artistes comme ça du lot, et donc c'est le label Free Monkey Records. Donc là, l'album sort le 27 octobre, et puis il va y avoir des concerts bien sûr qui vont faire la promotion du disque, et on espère des dates évidemment à Lyon. Je crois qu'il y a une release party le 26 octobre au Makenda à Marseille. Donc on espère vivement que Marie-Lou viendra dans notre région, et peut-être, moi je vois bien Marie-Lou à tout bout de champ, ouais, vraiment.
Pourquoi pas?
Peut-être dans le festival des femmes sans mêle. Je sais qu'à tout bout de champ, ils avaient programmé aussi ce festival.
Eh ben,
donc voilà,
pas.
Mauvaise fille de Marie-Lou.
Merci beaucoup, Guillaume. Nous poursuivons avec la lecture de Thomas, un extrait d'un texte de Jean Lancelme. On t'écoute, on en parle juste après.
Don d'organes. Je donne ma main à ma sœur kinésithérapeute. Je donne mes tripes à Caen. Mon cœur au resto. Mes reins sûrs au caniveau. Je donne ma tête de lard à lard. Je donne mon foie au morue. Mes yeux à Michel Morgan. Mes dents à Adam. Et ma langue au chat d'Ève. Je donne mon sang impur au micro-sillon. Je donne mon cul à ma chance qui en a besoin. Je donne mes jambes à mon cou et mes bras autour du tien. Je donne mon dernier souffle au bouche à bouche. Je donne mon pied à ma maîtresse. Je donne mon âme à Dieu et ce qui reste au chien. Ou comment économiser un enterrement. Cogito ergo sum. Je me trouve actuellement en plein débat intellectuel. Ainsi, en salant mon trottoir après les dernières chutes de neige, s'est imposée à mon esprit cette énorme question. Comment les banquises peuvent-elles encore subsister puisque l'eau de mer fait fondre la glace ? Je n'ai pas encore trouvé la réponse à cette interrogation et en reste perturbé. Mon tourment ne s'arrête pas là. Avec le même illogisme, l'hiver, vous soufflez sur vos doigts pour les réchauffer et sur votre soupe pour la refroidir. Et on vous conseille, par temps de canicule, de fermer vos fenêtres à la chaleur, mais d'ouvrir en revanche celles de votre voiture. Vous m'obligeriez par ailleurs, si vous pouviez m'ôter de ce tourment syntaxique. Il concerne l'expression « baisser son froc », qui implique un acte de soumission, d'abdication, alors qu'en le baissant, on montre son cul, geste qui relève cette fois de l'arrogance, de la provocation et du défi. À quel moment s'opère la bascule, le déclic ? Est la question que je me pose. Le grand âge fabrique les grands sages. C'est pas de chance. C'est un poème érotique. Elle s'appelait Marie et l'appelait mon Jésus. Il lui demanda si elle était vierge. Elle lui répondit « Pas encore ». Puis, en la caressant de bas en haut, il arriva en haut du bas. Mais, oh là là, il lui fila son bas de bas en haut. « Oh !» dit-il. « Bah !» dit-elle. Et le rêve s'arrêta là.
Merci beaucoup pour cette lecture, Thomas. Effectivement, on peut dire que c'est très différent. Les trois textes sont très différents dans tes choix.
Oui, tout à fait. J'ai pioché dans ce recueil « Con comme la lune », quel beau titre.
Sorti en 2008.
Oui, 2008. Alors, il faut savoir que c'est un auteur qui était déjà très très âgé, hein. Il est né en 1899.
Jean Lancelme.
Ouais, il a traversé tout le siècle, le 20e, et puis un petit bout du nôtre. C'est un gars qui a un parcours mirobolant, on pourrait dire, hein. Il a été sportif de haut niveau, il était en politique aussi, enfin un parcours très, très étonnant. Et il a énormément produit. Et là, c'est un recueil qui est aux éditions Rougerie, qui de mémoire était l'éditeur, un des premiers éditeurs de Vian.
Très bien, merci beaucoup pour cette découverte à nouveau, Thomas. On termine cette semaine avec nos Gédéons, comme chaque semaine. Gaëlle, avec quoi es-tu venue dans ta petite besace ?
Mon Gédéon de la semaine est l'exposition « Cœur à corps » de Damien Millet à la galerie Norca. Après des années en tant qu'entrepreneur dans le secteur médical, Damien Millet retrouve son univers initial. Formé dans les années 90 aux Beaux-Arts de Valence, ville où il a ouvert Enluminure, une maison d'art, Damien Millet déploie un goût prononcé pour le pouvoir vibratoire des couleurs. Goût qu'il conjugue avec une alchimique utilisation de l'éponge, exploitée autant comme matière première que support. En apprenant que Damien Millet a fait un burn-out début 2018, on songe combien l'art a des vertus thérapeutiques et libératoires. La vigueur des compositions de l'artiste et la vivacité de sa palette chromatique ressourcent. Véritable ode à la vie. Les idées de pulsation et de battement transparaissent jusqu'à leur matérialisation dans des sculptures reprenant formellement des cœurs. Écho au titre de l'exposition, cœur à corps, ces cœurs sont sculptés à partir de compressions de peinture acrylique, encadrés par des tissus éponges multicolores qui sont donc organisés comme des sillons. La sculpture se manifeste également dans deux totems multicolores, l'un juxtaposant des tissus éponges, l'autre offrant une singulière compression de peau de yaourt réinterprétée. Dans les tableaux de Damien Millet, la peinture explore les possibilités offertes par le maillage en micro-bouclette du support éponge. La peinture imprègne l'éponge, parfois jusqu'à saturation, ou au contraire, est retenue sur les aspérités des bouclettes, proposant ainsi une touche plus en empattement. On se retient pour ne pas toucher ces visuels tactiles. L'esthétique de l'exposition « Cœur à corps » est sans conteste thérapeutique et vivifiante. L'exposition est programmée jusqu'au 28 octobre. Plus d'informations sur galerie-norka.com.
Guillaume, c'est un livre encore.
Pas avec un disque, enfin pas tout à fait, parce qu'on parlera quand même un petit peu de musique. C'est un livre coécrit, puisque c'est une interview, un long entretien entre donc Sean O'Hagan, un journaliste australien, avec Nicholas Edward Cave, alias Nick Cave. Nick Cave, un chanteur très connu qui est venu il y a pas très longtemps en Nuit de Fourvière, et puis que pour les vieux comme moi, eh bien on a vu au Transborder en 2001. D'ailleurs, il y a un DVD qui a été édité pour ce spectacle qui s'intitule God in the House, et de Dieu, il est beaucoup question dans ce livre qui s'appelle Foi, virgule, espérance et carnage. Alors, ça peut être un peu provocant, mais c'est un long entretien, et j'aime beaucoup la quatrième de couverture parce qu'on nous dit que ce ne sont pas des mémoires, c'est une conversation. Nikkei refuse quasi toute interview, désormais, parce qu'il trouve que les interviews, c'est de la promo, et en fait, les questions sont toujours identiques et qu'il doit se répéter. Là, c'est un entretien long cours, ça fait plus de 300 pages, et c'est passionnant. Pourquoi ? Parce qu'il nous livre un petit peu son rapport à la musique et aussi à la foi. Alors, pour ceux qui l'ignorent encore, il se trouve que Nikkei n'a pas eu effectivement une vie facile. Alors évidemment, quand il était jeune, il était très 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 extraverti, et puis il prenait peut-être beaucoup de substances interdites, et puis voilà, il a perdu coup sur coup deux enfants, dont un de ses fils, il avait des jumeaux, et un de ses fils est décédé suite à une prise de LSD. Il est tombé d'une falaise du côté de Brighton en Angleterre, et puis après il a perdu un autre de ses fils qui était plus âgé mais qui lui était schizophrène. Ça parle de musique, mais ça parle surtout de vie et de mort. C'est pas du tout plombant, c'est assez passionnant. Et comme il vient aussi de sortir un album live avec son compère Warren Ellis, ils avaient sorti tous les deux en 2021 un album qui s'appelait Carnage, donc ça reprend une partie du titre du livre. Et bien là, il y a un album live, c'est le dernier concert qu'il a fait donc chez lui au Sydney Opera House en Australie. Et donc il y a un album qu'on peut écouter. Mais comme les morceaux sont très très longs, et puis que je trouvais que c'était assez intéressant finalement d'écouter ça, on va écouter un duo célèbre avec sa compagne de l'époque, Pidge Harvey. On va écouter ce titre-là, Henry Lee.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird looked down on Henry Lee. I can't get down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird looked down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan.
La 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 la, la la la.
A little bird let down on Henry Lee.
Come take him by lily white hands, come take him by his feet and throw him in this deep, deep well. It's more than 100 feet.
And the wind did howl, and the wind did blow.
La 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 la, la 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 la.
A little bird.
Thank you.
Donc c'était Henry Lee de Nick Cave et de PJ Harvey, un titre assez sombre, puisque vous savez que cet album de Nick Cave, Murder Ballad, évoquait que des tueurs en série ou des gens qui avaient commis effectivement des meurtres assez atroces. Henry Lee est quelqu'un qui n'a jamais été trop condamné, à chaque fois libéré, et on craint qu'il ait assassiné plus de 300 personnes. Désormais, il est décédé, mais voilà. En tout cas, c'est un titre assez impressionnant avec cette voix aussi de PJ Harvey. Donc, j'en reviens à mon livre. Le livre est assez formidable. Ça s'appelle « Foi, espérance et carnage » de Nick Cave, interviewé par Sean Onaghan, et c'est aux éditions La Table Ronde.
Merci beaucoup, Guillaume. Effectivement, un livre qui nous incite à écouter de la musique. Pour moi, ce sera un focus sur l'actualité de la rentrée théâtrale avec le festival Sens Interdit, théâtre de l'urgence, qui se tiendra du 14 au 28 octobre. Ce festival, c'est 18 spectacles en langue originale surtitrée dans 25 lieux de Lyon et la métropole. Et pour la première fois, à la comédie Odéon avec une compagnie malienne composée de femmes. La pièce s'intitule Coups humains, coups humain, coup au pluriel, humain au pluriel. À voir le dimanche 22 octobre. Pour réserver vos places et découvrir cette programmation indispensable, une seule adresse, www.sensinterdit.org. Bonne semaine. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr. Mmh.